Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans l'épisode précédent consacré à François Vatel, Nicolas Fouquet a été arrêté à la demande du roi. Trop riche et ambitieux, il a provoqué la colère de Louis XIV. Son maître d'hôtel, apprécié par toute la cour, risque lui aussi la prison. Il doit prendre une décision, soutenir le surintendant des finances déchu pendant son procès ou se mettre en sécurité en Angleterre. Épisode 2. De l'honneur des poissons. Nous sommes à Nantes le 5 septembre 1661. Nicolas Fouquet a été arrêté par D'Artagnan. Les mauvaises langues murmurent que sa fête fastueuse à Vaux-le-Vicomte organisée en l'honneur du roi est à l'origine de sa disgrâce. Certes, Louis XIV a été jaloux de cette réception, mais ce n'est pas la raison de l'arrestation de Fouquet. Les intrigues de cour et son ambition, en plus de suspicions de détournement de fonds et de crimes de lèse-majesté, ont fait bien davantage pour sa disgrâce que l'art de la table de François Vatel. Le maître de cérémonie n'a pas le courage de soutenir son maître. Il a préféré fuir en Angleterre en apprenant son arrestation. Louis XIV ne lance aucun mousquetaire à sa poursuite. Il ne veut pas que Vatel puisse dire au procès de Fouquet que son maître a versé discrètement de l'argent au roi pour l'aider à financer ses dépenses. Louis XIV donnerait l'impression de mettre un de ses créanciers en prison. Fouquet est quant à lui interné à la forteresse de Pignerol dans l'actuel Piémont italien. Et pendant presque 10 ans, les historiens perdent la trace de Vatel. En 1663, Vatel est de retour en France. Il est recruté grâce à un ami, Monsieur de Gourville, par Louis II de Bourbon-Condé, dit le Grand Condé, propriétaire du château de Chantilly situé à une quarantaine de kilomètres de Paris. Ce prince du sang est alors en disgrâce. Il est issu de la plus haute noblesse puisque les princes de Condé sont des cousins des rois de France. Dès l'âge de 21 ans, il s'est illustré sur le champ de bataille par ses qualités militaires. Trop noble, trop riche, trop ambitieux, trop talentueux, tout est réuni pour se faire détester par Louis XIV. Pour bien comprendre la situation, revenons au début de son règne. Louis XIV est un enfant quand il arrive au pouvoir. Il a 4 ans. La régence est effectuée par sa mère, Anne d'Autriche, associée au cardinal Mazarin, qui est d'origine étrangère. Tout ça, c'est très difficile à accepter pour la noblesse, qui veut participer au pouvoir et qui ne supporte pas de recevoir ses ordres d'une femme et d'un étranger. Le pouvoir est fragilisé. C'est dans ce contexte troublé que va naître la Fronde. La Fronde, c'est une révolte de l'aristocratie contre le pouvoir en place. Le royaume est au bord de la révolution, on pense même à la convocation des états généraux. Au début de la Fronde, le Grand Condé ne cherche pas à s'opposer directement à la reine de France. En revanche, il déteste Mazarin et il va faire pression sur lui au point d'obtenir un traité qui lui interdit de prendre des décisions sans solliciter les princes du sang. Mazarin va se venger, le Grand Condé va faire un séjour en prison, et quand il en sort, il fédère les princes du sang pour créer un nouveau mouvement, la Fronde des princes. Et c'est cette fronde qui va marcher sur Paris. Ça veut dire que le Grand Condé essaye de s'emparer de Paris pour s'imposer au pouvoir. Sauf que Paris va rester fidèle au roi Louis XIV, qui a désormais 14 ans, et qui va reprendre la ville grâce à l'aide de Turenne. Et c'est dans ce contexte que le Grand Condé va tomber en disgrâce et devoir s'exiler pendant 5 ans en Espagne. En 1660, après le traité des Pyrénées qui met fin à la guerre entre l'Espagne et la France, le Grand Condé est autorisé à rentrer sur ses terres. Comme Louis XIV le tient éloigné du pouvoir, il s'occupe en embellissant son château de Chantilly. Vous avez donc compris que Louis XIV déteste le Grand Condé. Ça explique pourquoi celui-ci se lance en 1671 dans une opération séduction pour retrouver les bonnes grâces du roi. Le Grand Condé décide d'inviter le roi Soleil pour 3 jours de fête somptueuse sur son domaine. Vatel sera le chef d'orchestre de l'événement. Nous sommes le 11 avril. Il a 12 jours pour organiser les festivités pour 200 à 600 hôtes de marque et plus de 3000 invités. Vatel a 40 ans. En recevant le roi, il joue son honneur et celui de son maître. Il ne fermera plus l'œil pendant les 12 jours à venir. À Chantilly, c'est le branle-bas de combat. Vatel doit composer les menus de 3 banquets de 5 services pour presque 4000 personnes, se faire ravitailler en conséquence et organiser toutes les attractions de ces 3 jours de fête, chasse, concerts, feux d'artifice. Il dispose d'un budget de 50 000 écus, soit plus de 5 millions d'euros aujourd'hui. Il est un véritable patron d'événementiel. Il est très expérimenté, adoré de la cour, et pourtant, il se met une pression insoutenable. Enfin, dans l'après-midi du 23 avril 1671, le roi Soleil, souverain désormais incontestable de 32 ans, arrive avec une partie de sa cour et de ses gardes. Vatel est sur des charbons ardents. Il lance les festivités avec une chasse dans les vastes domaines boisés du château pendant qu'il achève de dresser ses tables avec sa vaisselle précieuse, ses chandeliers étincelants et ses pyramides vertigineuses de fruits. En cuisine, les légumes suent dans les casseroles, les viandes rôtissent dans l'âtre, les potages sont tenus au chaud. À l'office, les foie gras sont découpés, les fruits compotent dans les marmites et les tartes dorent au four. Vient enfin le moment de placer les convives. Et là, c'est la catastrophe. Il y a 75 personnes en plus parmi les invités de marque, soit l'équivalent de 2 tables. Vatel ordonne de poser de nouveaux tréteaux. Il recompose ses plats de service, mais il ne peut pas tout diviser. On ne met pas les rots en miettes pour les partager. Il y a donc des tables qui manqueront de viande rôtie. Quand on sait qu'on sert environ une viande différente par personne à table, le fait de manquer de rôt est très relatif à nos yeux. Mais les usages du XVIIe siècle ne sont pas les nôtres. À la cuisine, Vatel perd pied. Submergé par le stress, il appelle le baron de Gourville, son ami, et se plaint qu'il ne survivra pas à ce déshonneur. Il n'en peut plus et lui demande de diriger ses brigades à sa place. Gourville essaye de rassurer Vatel. Les 2 tables concernées par le manque d'euros ne se sont rendues compte de rien. Après 1 heure à table, les convives se lèvent et marchent vers les jardins enveloppés dans la nuit printanière. Un feu d'artifice va être tiré pour divertir tout ce beau monde. Les fusées colorées sont déjà en place sur le toit du château. Mais les nuits du début du printemps sont humides. Le ciel est bas et les feux d'artifice se perdent dans la brume qui atténue leur éclat. Pour Vatel, c'est un échec supplémentaire. Il est ravagé par une crise de nerfs. Le grand Condé vient le voir et le rassure. La fête est sublime, la nourriture merveilleuse, la cour est aux anges, tout va bien. Mais le contrôleur général de la bouche refuse d'écouter. Alors que le château s'endort, il veille dans la cuisine pour finaliser les préparatifs du lendemain. Le 2e jour de fête tombe un vendredi. Et le vendredi, selon les traditions chrétiennes, on mange maigre. Le poisson remplace la viande qui est considérée comme une nourriture riche. Pour nourrir ses 4000 invités, Vatel a envoyé ses livreurs chercher la marée dans tous les ports du Nord depuis la baie de Somme jusqu'à la Normandie. Ils doivent récupérer la pêche du jeudi soir et la ramener dans la nuit à Chantilly en suivant les routes du poisson, les axes routiers qui vont des ports vers Paris. Il faut parcourir plus de 150 km dans la nuit sur des pistes en terre avec des charrettes tirées par des chevaux. C'est possible, mais rien ne doit venir perturber un emploi du temps prévu à la minute près. La veille, une tempête a frappé le nord de la France et les pêcheurs sont rentrés en retard au port. Les émissaires de Vatel ont pris la route bien plus tard que prévu et les pistes sont défoncées par la pluie. Impossible de galoper. Dans la cuisine de Chantilly, Vatel flirte avec la folie. Il est 4 heures du matin et la marée n'a pas été livrée. Enfin, Un premier chariot arrive avec deux paniers de poissons. Vatel se sent mal. Il ne va pas nourrir le roi et ses invités avec deux paniers de poissons. Il attend. L'aube blanchit le ciel. Et les livreurs ne sont toujours pas là. Vers 8 heures du matin, Vatel prévient ses brigades. Il ne survivra pas au déshonneur d'un troisième service raté. Il monte dans sa chambre, prend son épée et la coince dans le chambranle de la porte. Un peu plus tard, tout le monde s'affaire en cuisine. Les livraisons arrivent enfin. Plusieurs chariots amènent la marée après une longue nuit de route. Vatel est introuvable. Il doit probablement se reposer après ses crises d'angoisse de la nuit. Les commis montent le chercher dans sa chambre et ils découvrent une scène effroyable. Gourville et le grand Condé sont appelés dans la chambre de François Vatel. Celui-ci gît dans une mare de sang sur le sol de sa chambre. Il s'est empalé à 3 reprises sur son épée. La mort du contrôleur général de la bouche se répand comme une traînée de poudre dans le château. Tous les invités sont stupéfaits. Mais malgré cette nouvelle, personne n'a envie de mettre fin à une fête aussi réussie. Pour lui rendre hommage, les invités refusent de toucher au poisson responsable de sa mort. Pendant que les invités s'amusent, des valets s'occupent de l'inhumation de Vatel. Au XVIIe siècle, le suicide est un péché capital. Il ne pourra donc ni être absous, ni bénéficier d'un enterrement religieux. Il est probablement jeté dans un trou en toute discrétion. Sa mort pleine de panache assure à Vatel son immortalité. Il entre dans la légende comme le plus grand maître d'hôtel de l'époque de Louis XIV. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à François Vatel. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok. Au Cœur de l'Histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Camille Bichler est chargée de production. Julien Tarot a composé la musique originale et les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Héloïse Bertil de la diffusion. Et Sidonie Mangin a créé la nouvelle identité visuelle d'Au cœur de l'Histoire. À bientôt !